Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Bonjour, Abbé Philippe Beitia.
Bonjour.
Cette fête de la Toussaint est assez ancienne. Au départ, on célébrait les martyrs.
Oui, au départ, les premiers qui ont été célébrés, ce sont les martyrs. Ensuite, ce qu'on appelait les confesseurs. Autrement dit, ceux qui avaient été martyrisés, mais qui n'étaient pas morts du martyr. Avant que l'on ne considère Saint Martin de Tours comme confesseur, qui est l'un des premiers non-martyrs. Bon, puis ensuite, bien sûr, ça s'est diversifié. On a célébré les saints évêques, les saints prêtres, quelques laïcs, la Vierge Marie, mais bon, voilà, un peu. Donc, tout à fait au début, donc on va célébrer les saints martyrs, et bien sûr, avec le temps, la fête prendra de l'extension.
Donc c'est quel siècle la fête des martyrs, la fête de la Toussaint ?
Je crois que c'est aux environs du 8e siècle.
Abbé Philippe Beitia, peut-être est-ce qu'il est bon de rappeler ce qu'est un saint et quels sont les critères de l'Église pour déclarer quelqu'un saint ?
Alors, dans Gaudete et Exultate, le Saint-Père parle de la sainteté de la porte d'à côté. Palier d'à côté. Donc ça veut dire que voilà, la sainteté, elle est pour tout le peuple de Dieu, ce que nous confessions dans le credo. Je crois que l'Église est sainte. Et donc, ben, qu'est-ce que c'est la sainteté ? Ben, c'est mettre en pratique voilà, l'amour du Seigneur, l'amour des frères. C'est pas obligatoirement une perfection morale, parce que bon, chacun boite d'un pied ou de l'autre. Mais voilà. Et pour l'Église, bien, on va entendre le récit des béatitudes le jour de la Toussaint. Bien, l'Église nous dit, bien voilà, la sainteté, c'est vivre la pureté de cœur, c'est vivre la miséricorde, c'est vivre la faim, la soif de la justice, etc. Voilà. Donc, il peut y avoir une sainteté tout à fait, si j'ose dire, cachée, modeste. Mais une sainteté toujours rayonnante. Quand l'Église béatifie puis canonise des saints, elle nous propose toujours un idéal très élevé. Pour quelle raison ? Parce que si on tire vers le haut, on fera toujours quelque chose. Effectivement, il y a des saints qui sont des géants de la sainteté, un François Xavier, une Ignace de Loyola, une Thérèse d'Avila, une Thérèse de l'Enfant Jésus.
Mais pourtant, ils avaient des défauts.
Oui, ils avaient des défauts, mais dans la procédure de béatification et de canonisation, on va d'abord regarder, lire leurs écrits pour voir s'ils sont conformes à la foi de l'Église. Ce qui, dans le fond, traduit leur propre foi, et leur union à la fois à la communauté. On va ensuite insister sur l'héroïcité des vertus, autrement dit, les vertus chrétiennes portées à leur incandescence. Et on va demander un signe du ciel à travers les miracles que l'on va requérir. Bon, ça montre que le Seigneur approuve cette canonisation et que le saint intercède avec efficacité, auprès de Dieu. Alors, donc, il y a ces grandes figures, mais, donc, que l'Église nous propose, bien sûr, elle élève sur les autels, mais elle nous propose, d'après la liturgie, de vivre selon leur exemple, selon leur enseignement, de participer à leur mérite, mais c'est surtout pour que nous tirions vers le haut. Et chacun de nous a sa forme de sainteté. Tout le monde n'est pas appelé à être François Xavier ou Thérèse d'Avila. Chacun de nous a sa vocation propre.
Est-ce qu'on peut être saint sans le savoir ?
Eh bien, d'ordinaire, oui. Parce que la sainteté suppose l'humilité.
Pour devenir saint, il y a des degrés. D'abord, on est vénérable, puis après bienheureux, puis saint. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce processus ?
Alors, donc, c'est tout le processus du procès de canonisation. Donc, mettons, quelqu'un qui a beaucoup marqué, on va d'abord faire un procès diocésain, c'est-à-dire on va bien sûr examiner ses écrits et interroger de manière officielle un peu les gens qui l'ont connu. Bon. Parfois, c'est des caisses et des caisses de témoignages. Bon. Puis, on va refaire quelque chose de semblable à Rome. Et au vu de cela, ben, vous pouvez être déclaré vénérable. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a des chances pour qu'on puisse aller plus loin. Alors, une première étape est la béatification et une seconde étape est donc la canonisation. Ça, c'était un peu le parcours classique. Aujourd'hui, avec la nouvelle législation, mais très bien, parfois on ne fera que béatifier le saint à un rayonnement local, peut-être pas pour toute l'Église, et donc on va canoniser des figures qui auront davantage d'aura spirituelle. Alors, c'est un peu cela.
Par exemple, pour le père Sestac, il a été déclaré vénérable au début du XXe siècle et il a été béatifié que presque un siècle après, au début du XXIe. Alors, il y a des processus qui sont assez longs, puis d'autres, ça va beaucoup plus vite. Je pense, par exemple, au dernier pape, quand tous étaient béatifiés et canonisés. Est-ce qu'il n'y a pas une différence
Alors, pour le père Sestac, c'est d'un certain point de vue un peu amusant parce que on attendait des miracles. Et on avait beau prier, on ne les obtenait pas. Bon. Et bien sûr, donc, la cause était un peu en panne. Jusqu'au jour où l'archiviste du diocèse de Dax, Mgr Alfred Brett, qui était autrefois mon supérieur de premier cier, voit dans ses archives quelque chose de scellé par... je pense, Mgr Mathieu, par curiosité, il l'ouvre, et c'était donc la relation de miracles due au père Sestac. Alors, c'est ça qui a relancé la procédure et permis la béatification que nous avons vécue, donc, il y a quelques années. Bon, pour le pape Jean-Paul II, bon, Jean-Paul II, c'est quand même Jean-Paul le Grand, vu un peu son histoire personnelle, sa spiritualité, un peu la conduite de l'Église catholique, son impact dans la chute du mur de Berlin, et aussi, on peut le dire aussi, l'importance qu'il a eue pour les journalistes. À l'époque, avec ses voyages, bon. Donc, à ce moment-là, son successeur, alors bon, à la mort de Jean-Paul II, voilà, subito santo, hein, voilà, en gros, qu'on le canonise. Donc, le pape Benoît XVI, bon, d'ordinaire, il faut attendre un certain temps pour que les choses se décantent avant que d'ouvrir la procédure. Donc, le pape Benoît XVI a dispensé de ce temps-là. Et donc, le pape Jean-Paul II a été d'abord béatifié, puis canonisé. Ceci étant, bien sûr, il est peut-être prudent. Il est peut-être prudent d'attendre un certain temps, les choses se décantent, qu'on puisse faire l'enquête, qu'on ne fasse pas les choses à chaud, pour lancer donc une procédure de béatification, de canonisation.
L'Église peut-elle se tromper ? Est-ce qu'on peut décanoniser, entre guillemets, un saint ?
L'Église ne décanonise pas. La procédure de canonisation telle que nous l'avons est relativement récente. Elle date, je crois, du 16e, 17e siècle. Parce qu'autrefois, ben voilà, on considérait qu'un évêque ou un laïc ou un prêtre était un saint. Le vox populi, vox dei. Le peuple le disait, puis on faisait l'élévation, c'est-à-dire qu'on prenait son tombeau, on l'élevait, et donc on commençait le culte. Bon, alors bien sûr, il y a dû y avoir quelques abus. Après, il peut y avoir, ben, malgré tout, des figures controversées, Ou bien, voilà, à une époque, on ne canonisait pas, je ne sais pas, je pense à Saint Jérôme, par exemple, à qui on doit beaucoup pour l'exégèse dans l'Antiquité, pour le commentaire, mais qui était quand même un caractère de cochon, enfin, une espèce de caractériel. Bon, alors, ou bien Cyril d'Alexandrie, qui était quand même un peu manipulateur au Concile des Fêtes. Donc, il peut très bien y avoir des figures. Voilà. L'Église les a canonisées, mais elle laisse à penser. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de vous adresser à ce saint-là.
En conclusion, Abbé Philippe Baïtia, rappelons que par le baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté.
Oui. Et quelqu'un comme Saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, dira que voilà, il y a. Alors, il prend les métiers de son époque. Il y a une sainteté pour le chartreux, mais il y a une sainteté pour l'artisan, une sainteté pour l'évêque, etc. Et qu'il ne s'agit pas que les uns prennent la forme de vie des autres. Donc, effectivement, je crois que nous sommes tous appelés à cette sainteté dont parle le pape François, la sainteté du palier d'à côté. Autrement dit, la sainteté dans la vie quotidienne, dans la vocation que le Seigneur nous a donnée, dans le travail que le Seigneur nous a donné.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Baïtia, et très bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous.